L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission Le Magazine de Radio Évasion, qui a pour mission aussi de mettre en avant les nouvelles émissions maison. Et là, aujourd'hui, joie, bonheur, c'est archéologie. Le sujet nous est familier, les archéologues viennent parfois nous parler. Et cette fois, nous comptons parmi les bénévoles productrices de radio une archéologue qui adore faire passer sa passion, Céline Kergonan. Elle s'apprête à réaliser une émission bimensuelle, mais qu'on retrouvera sur la grille de Radio Évasion chaque semaine. Une semaine en première diffusion et la suivante en rediffusion. L'émission a pour titre « Truelle et sac à dos ». Bonjour Céline.
Et bonjour.
Alors, je te tutoie puisque tu es officiellement adhérente de Radio Évasion.
C'est ça, je suis partie de la bande.
Voilà. Est-ce que tu peux nous dire déjà qui tu es ?
Alors, moi je suis donc Céline Kergonan, archéologue de formation, on va dire. J'ai commencé ça pendant 5 premières années de ma vie après mon cursus universitaire. Et rapidement, je me suis rendu compte que l'archéologie pure et aller gratter la terre avec ma truelle, remplir des documents, des rapports qui allaient dans un centre de documentation auquel personne n'avait accès, ça me posait problème avec moi-même à me dire « mais à quoi je sers ?»
Ça ne te correspondait pas en tout cas.
Pas véritablement. J'avais plus envie d'être en contact justement avec les gens qui venaient faire les curieux sur le chantier et qui nous posaient des questions. Et puis de créer des outils, quoi, de me dire « mais comment on peut faire pour leur expliquer ce qu'on fait ? C'est quoi notre métier en fait ?»
Et tu as travaillé pour une association, il faut te le rappeler, dans le centre Bretagne, c'est ça ?
Alors, je suis arrivée en Bretagne, effectivement, j'ai travaillé pour les mémoires du Kreisbreis pendant plus de 10 ans. Auparavant, c'est vrai qu'avant d'arriver dans cette association, j'ai été aussi animatrice du patrimoine, j'ai travaillé au service de l'inventaire en DRAC en Nouvelle-Aquitaine.
Alors, DRAC, direction régionale des affaires culturelles.
Voilà, au service régional du coup d'archéologie. Et au service régional de l'inventaire. Et puis, j'ai eu quelques missions, qui étaient à l'étranger, que ce soit au Portugal, en Espagne, en Italie. Et suite à ça, c'est vraiment là que je me suis posé les questions de me dire, mais qu'est-ce que je veux faire ? Et en fait, j'ai vu un poste qui était d'être archéologue aux Vieilles Charrues, au départ.
Et,
et donc mon cher étendre étant breton m'a dit mais c'est génial, c'est en Bretagne, on fonce, je retourne chez moi et puis toi tu vas faire ce que t'aimes. Et c'est vrai que c'était une équipe de 5 spécialistes en fait qui étaient en charge d'une revue d'actualité qui s'appelait Kreisbreis avec un ethnologue, un historien, un bretonnant dans l'affaire qui faisait des super articles d'ailleurs. Qu'on ne retrouve pas aujourd'hui encore, je trouve, ce type d'article dans les revues actuelles. Et puis, il y avait une partie justement en archéologie, puisque le site de Carré était mis au jour et en pleine fouille programmée.
Et qu'est-ce qu'on a trouvé d'ailleurs au passage sur le site des Vieilles Charrues ?
Alors, sur le site des Vieilles Charrues, il n'y a pas eu de fouille véritablement, mais on sait qu'il y a il y a sans doute un domaine antique, une sorte de villa sans doute, sous nos pieds. Quoi,
mais elle n'a pas été fouillée.
Non, il n'y a pas eu de... Il y a quelques traces. Et puis, au château de Quérampuil, là, par contre, il y a eu quelques fouilles préventives sur le jardin. Mais bon, là, on est sur une autre période, on est sur la période moderne. Quoi.
Et puis, pas très loin, il y a le cairn, le fameux cairn.
Le cairn du Gouesser, alors qui, lui, était plus une curiosité dans le paysage, où on avait quelques questionnements, justement. Et Elodie Guézenec, avec qui je travaillais, qui maintenant est au Centre départemental archéologique du Fouc, que vous avez dû rencontrer.
Et oui, c'est ça, un reportage.
Avait fait la remontée à Florian Cousseau pour qu'il puisse aller, justement, faire le curieux.
Et les fouilles sont en cours, c'est très intéressant. Et le Carré, on sait bien de toute façon que c'était Vorgium, c'était la capitale du pays au sisme.
C'est ça. Voilà.
Alors, donc, tu as créé, au bout d'un moment, ta propre activité, en fait, Archéolab.
C'est ça, la Archéolab, oui.
C'est ça, art, apostrophe.
Avec le T, ouais. Oui. En fait, c'était justement pour avoir ce rapport à l'art, parce qu'on a monté énormément d'ateliers quand on était au mémoire du Kreisbreis et on s'est aperçu des manques qu'il pouvait y avoir justement sur la médiation quand on l'a menée pour expliquer le métier d'archéologue. On était beaucoup sur la discipline, donc c'est quoi la céramologie, c'est quoi la palynologie.
Ouais, on va y revenir, voilà. Même si on connaît, mais on va y revenir.
Et c'est vrai que sur les programmes scolaires aujourd'hui, c'est beaucoup les périodes en fait, c'est plutôt c'est quoi la préhistoire, c'est quoi l'antiquité, c'est quoi le Moyen-Âge. Donc on a fait une espèce de doublé entre expliquer la discipline archéologique l'archéo, c'est quoi ? Et mêler ça avec des savoir-faire, des techniques, de l'artisanat en fait, de ces époques-là. Donc on se retrouve avec au néolithique, ben, y a tout ce qui est poterie par exemple, mais auparavant sur le paléo, on a pu bosser sur l'art rupestre. Après sur l'antiquité, on a travaillé pas mal sur tout ce qui était enduit peint. Parce que sur carré, justement, il n'y a pas de mosaïque, en fait. C'est beaucoup de peinture sur les murs, donc on a retravaillé ça. Et puis sur le Moyen-Âge, même chose, comme on a pas mal de sites aussi, puis que ce n'est pas forcément la période qui est mise en avant, qui est trop connue sur l'histoire de la Bretagne, on a essayé de travailler autour de tout ce qui était cuisine au début. On s'est fait plaisir.
Cuisine du Moyen-Âge, super.
Ouais, c'était génial. Et puis, petit à petit, on est arrivé sur l'héraldique, le bestiaire, parce que bah, c'est vrai qu'on a pas mal de sablières sculptées, des choses comme ça. Alors, tout ce qu'on retrouve aujourd'hui, pas forcément de l'époque médiévale, ça va être plus de l'époque moderne, mais on s'en sert en tout cas comme exemple par la suite pour ce type d'atelier, quoi.
Donc ça, c'était dans le cadre de Mémoire du Crès-Brest, qui est devenu archéolab. Enfin...
C'est ça, exactement. Oui, tout se confond. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me sentais pas au départ capable de voler de mes propres ailes. Donc c'est vrai que d'être au sein de l'asso, avec un cadre associatif, on est quand même plus serein, on a des bénévoles avec soi. Sauf que on avait quand même, dans le travail qu'on faisait, beaucoup de prestations. Et on faisait du travail de consultant, d'expertise auprès des collectivités, du suivi de projet. Donc à terme, on s'est rendu compte que le travail que je faisais, c'était l'équivalent de ce que je pouvais faire seul, en fait. Mmh. Et donc, l'association, les bénévoles, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien, hein, on peut pas non plus...
On peut pas trop leur en demander.
Ouais, oui, puis on court tous après pour en avoir. Et nous, on commençait à dépérir aussi de ce côté-là. Donc, je me suis tournée tout simplement vers l'entrepreneuriat et j'ai créé ma structure.
Et Archéolab, officiellement, fait quoi alors ?
Alors justement, on a ces trois volets, à la fois de la formation auprès des professionnels et que ce soit des collectivités ou des associations pour les accompagner à comprendre déjà comment fonctionne une structure associative, comment je peux créer des outils de médiation, comment je peux monter un dossier de financement justement pour réaliser ce que je souhaite faire au sein de ma structure. Et puis on a un volet... autour de la création, donc où là on est plus dans un accompagnement. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de l'association de sauvegarde de l'ancienne mine, on a à Bérien, on a repris leur exposition et puis on les a accompagnés pour la refonte de ce travail-là. Là actuellement, il y a donc un étudiant de master en médiation du patrimoine qui les a aidés à faire une nouvelle exposition. Donc on est là au quotidien, on va dire, parce qu'on a la chance de pouvoir être sur le terrain. Et puis on a un volet médiation pure, je dirais, avec à la fois des interventions auprès du public sous forme de conférences, de visites guidées ou d'ateliers, et de création d'outils, que ce soit sous forme de bouquins ou de jeux de société aussi, parce qu'on a pas mal travaillé sur des jeux justement qui soient adaptés aux ateliers qu'on met en place.
Mais on va y revenir justement. D'abord, on va peut-être s'arrêter un peu sur l'archéologie, même si les auditeurs de Radio Évasion, je pense, commencent à connaître un peu. C'est un peu, en fait, la difficulté de l'archéologie, c'est que c'est extrêmement vaste. C'est à la fois scientifique, sciences dures et sciences humaines. Enfin, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'archéologie ?
C'est ça. Alors, du coup, sur l'archéologie, en effet, on fait partie des sciences humaines à la base. Les formations aujourd'hui, quand on en sort, on est toujours encore en sciences dues.
C'est-à-dire qu'on fait d'abord plutôt de l'histoire, c'est ça ?
Plutôt de l'histoire, histoire de l'art. On a pas mal de masters qui sont sur l'histoire de l'art et qui proposent une option archéo. Et il y a pas mal de spécialités maintenant qui sont sorties de terre, on va dire, mais il y a encore une vingtaine d'années, on était assez pauvres là-dessus. Et donc, l'archéologie en tant que telle, c'est vraiment d'aller se rendre compte de la vie du passé, de l'homme, de ce qu'il a pu concevoir et qui a pu lui servir à son quotidien, quoi. Donc on est à la recherche de ces vestiges-là et ça passe à la fois sur des travaux de terrain, parce que c'est comme ça qu'on nous voit, hein, avec justement truelles et sacs à dos. Et en même temps, il y a quand même des recherches en amont sur la partie archives, histoire propre, pour retrouver ces fameux sites qui ne sont pas forcément connus de tous ou dont on a perdu la trace, quoi.
Mais ce qui distingue l'archéologie de l'histoire, c'est que justement l'archéologie va chercher des traces tangibles et pas seulement des documents.
Oui, enfin, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va se servir de l'histoire au démarrage pour la partie archive, comme je le disais. Puis ensuite, cela nous amène sur un terrain où là, concrètement, on va pouvoir trouver, C'est
on espère.
Voilà, c'est ça. En tout cas, ça nous amène sur ces terrains-là où on va essayer de comprendre, d'analyser un peu mieux la période historique concernée et comment pouvaient vivre ces civilisations-là ou ces communautés-là à ces époques-là. Quoi.
Et il s'agit bien d'humains, à savoir que quand on cherche des dinosaures, on ne fait pas de l'archéologie.
Alors oui, ça c'est le combat de... le combat de chaque jour. C'était... Mais c'est les... Voilà, les enfants très souvent, c'est « Ah, est-ce que tu as trouvé beaucoup de dinosaures ?» Non, je ne suis pas paléontologue. Mais il est clair que les techniques du paléontologue, au niveau de la discipline et de, des outils qu'on peut utiliser, sont tout à fait similaires sur le terrain. Mais il est clair que l'archéologue, c'est l'être humain avant toute chose.
Oui, mais la frontière n'est pas si facile que ça, puisque quand est-ce que l'être humain a commencé à être un être humain on ne sait pas trop, hein, parfois. Donc,
C'est ça.
Bon, après, les peuplements dans le Finistère ou en Bretagne, bon, ça ne remonte pas il y a 3 millions d'années. Enfin, on n'a pas trouvé, en tout cas, on reste sur un humain quand même.
Oui,
quoi.
Ouais,
c'est quoi C'est les plus anciens peuplements humains
Bah, du coup, on est à, moi, je dirais que c'est Ménez-Dragan pour l'instant. J'ai vu
450 000 ans, 470
000 ans. Ouais, alors j'ai vu une info comme quoi sur Toulouse, ils auraient trouvé des traces de feu qui seraient les plus anciennes.
D'Europe
Apparemment. Du coup, j'ai laissé un petit message quand même sur les réseaux pour leur dire à voir.
Prouvez-nous.
En disant, je vais faire jouer le chauvinisme breton en disant, pour l'instant, c'est Ménez-Dragan qui tient la barre.
Ben oui. Sachant qu'on n'a pas retrouvé de squelette. Hein. On a retrouvé des traces d'occupation.
Ah oui, c'est que du charbon de bois. C'est des petites miettes, quoi. Hein, on est d'accord. Mais on a quelques traces qui vont bien.
Ouais. Et l'archéologie, alors, c'est des sciences humaines, mais c'est ce qui rend peut-être la chose un peu plus difficile à transmettre au grand public. C'est aussi des sciences, c'est extrêmement pointu parfois, enfin, justement, quand on parle de toutes ces disciplines-là.
Alors, c'est là où, justement, ça frôle les sciences, oui, parce que, donc, on parle de sciences U, mais souvent, on peut avoir double ou triple cursus, parce qu'on va faire de la physique appliquée si on veut faire de la datation carbone 14, par exemple. Tout ce qui est travail en laboratoire autour de la datation, mais ça peut être aussi tout ce qui est prospection aussi, en électromagnétisme, des choses comme ça. Puis aujourd'hui, avec le numérique, on a énormément d'outils. Je pense au LIDAR, par exemple, avec les vues satellites.
Le LIDAR, c'est quoi ? C'est du radar pour repérer des traces dans le sol, c'est ça ?
Exactement, ouais, qui vont nous donner une sorte d'image qui enlève la végétation, en fait, et qui permet de visualiser une espèce de sous-sol avec une vue un peu comme avec des lunettes de nuit.
C'est ça.
Et donc ça, ce sont des outils qui, aujourd'hui, font partie, pour moi, d'outils scientifiques, tout comme la photogrammétrie. Hein. Dernièrement, c'est la statuette de Paul, c'est la statuette à la lyre, justement, qui a été complètement photographiée de façon à la voir sous toutes les coutures, en 3D, et se rendre compte aussi de comment elle a été sculptée, en fait, de voir toutes les traces de gravure sur ce matériau, quoi.
Après, il y a encore la génétique, l'analyse des pollens.
Ouais, tout ce qui est dendrochronologie aussi, autour du bois, où là, on se retrouve avec, pareil, des techniques qui vont être avec une filière bien spécifique. Donc, sur les métiers en tant que tels, sur le terrain, c'est vrai qu'on est habitué à voir la personne qui va gratter la terre, mais autour d'elle, il y a celui qui fait les relevés de plans aussi. Aujourd'hui, on a aussi les pilotes de drones. Là, l'INRAP vient de s'équiper avec tout un panel. Et puis, ils ont même formé les topographes parce qu'aujourd'hui, ça fait partie du jeu. Quoi.
Pour prendre les photos aériennes, en fait.
Exactement.
C'est ça, hein. Parce qu'avant, c'était une perche qu'il fallait lever.
Oui, la perche. Et puis,
avec
même
l'appareil photo.
On fait appel aux pompiers aussi. Ouais. On les fait venir avec leur grande échelle et on prend des photos depuis la grande
drone,
échelle.
Le drone, là, ça change la vie de l'archéologie.
C'est génial. Ouais.
D'accord, donc tous ces métiers-là, voilà. Et donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de matière à transmettre au grand public. Et c'est là qu'on en arrive au deuxième sujet de cette émission, c'est-à-dire la médiation. Alors, la médiation, c'est vrai que c'est pareil, c'est un terme un peu valise. Qu'est-ce que ça veut dire la médiation ?
Alors ouais, c'est un terme valise que j'ai vu arriver au fur et à mesure de mon évolution dans la carrière ou dans le métier, on va dire. Quand je suis sortie de la fac, c'était quelque chose qui n'existait pas ou en tout cas on n'en parlait pas comme ça, on parlait d'animation tout court. Hein, on était animateur.
Et d'ailleurs, on voulait pas parler de vulgarisation. C'était déjà un gros mot.
Je pense que ça l'a tout.
Moi, personnellement, j'aime bien l'utiliser, mais apparemment, ça ne plaît pas.
Non, ce n'est pas un mot qui plaît, ou en tout cas, je ne sais pas pourquoi.
Comme si on allait rendre vulgaire la matière, alors
oui,
que ce n'est pas le cas.
Oui, c'est ça. Il faudrait peut-être trouver un autre mot, du coup, qui permette, je ne sais pas.
C'est vrai que médiation, c'est ce qui remplace vulgarisation, finalement.
Mais alors, médiation, à l'époque, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouvait surtout dans le socio-culturel et tout ce qui était rattaché à l'éduc-pop, quoi. Donc,
ou médiation entre les couples qui se disputent, médiation familiale.
Donc on est sur un mot qui, effectivement, veut bien dire ce qu'il veut dire, mais si on ne le rattache pas obligatoirement à médiation en archéologie, médiation du patrimoine, médiation culturelle, et moi, je suis chargée d'enseignement en master en médiation du patrimoine à Rennes, et avec mes étudiants, enfin, je dis mes étudiants, ce n'est pas les miens, hein, mais avec les étudiants, souvent, je leur dis, mais c'est un gros sac, en fait, ce qu'on fait. On a le patrimoine, la culture, le tourisme aussi, hein, qui vient jouer le jeu là-dedans, et du coup, à un moment donné, les disciplines, les filières, tout se mélange un petit peu. Et cette médiation, c'est vraiment nous, en tant qu'acteurs, en tant que personnes, comment on peut diffuser cette connaissance scientifique, cette recherche, en fait, ces résultats de recherche qui sont amenés par tous ces chercheurs, qui soient en histoire, en archéo, en histoire de l'art, ou des architectes aussi, hein, et comment ils peuvent être transmis au public, quoi. Donc la notion de médiation, moi, je pense qu'elle a besoin de... Enfin, en tout cas, il faudrait qu'on se trouve un autre nom, je ne sais pas.
Transmission, ça peut être pas mal aussi, mais bon...
Ouais, mais je vois, aujourd'hui, il y a un débat avec l'INP, là, où ils sont en train d'essayer de revaloriser le métier de conservateur, déjà.
Alors, l'INP, c'est quoi? C'est l'Institut National du Patrimoine?
Ouais, c'est ça, et d'essayer de remettre à plat ce métier-là pour dire vraiment c'est quoi un conservateur et en quoi on pourrait conserver ce mot de conservateur en tant que métier. Et je me dis, nous, médiateurs, en fait, est-ce que c'est vraiment notre... voilà, est-ce que c'est vraiment ça qu'on est? Et comment on peut définir? Parce que souvent, d'ailleurs, je vois passer plein d'infos là-dessus, sur le côté iceberg du métier de médiateur, quoi. C'est-à-dire qu'en haut, on nous voit comme l'animateur, ce que je disais tout à l'heure, avec la visite, les conférences, des choses comme ça. On est souvent guide conférencier, en plus, en parallèle.
C'est ça, ouais.
Et en dessous, il y a tout ce qui est, ce que je disais, sur de l'accompagnement, de la création d'outils et du montage de projets, où souvent, on est en amont, en fait, bien en amont. Et la seule chose qu'on voit, c'est le résultat, en fait. C'est quand on est en face à face avec les publics. C'est là que c'est frustrant, quoi.
Alors, on va quand même débroussailler, on va se contenter de ce mot-là. Qu'est-ce que ça peut être, la médiation en archéologie? Déjà, telle que la pratique Archéolab, et puis telle que toi, Céline Kergonan, tu aimerais la pratiquer?
Alors moi, déjà, elle passe par, justement, l'aspect formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'essaie un maximum de transmettre ce que j'ai pu apprendre, moi, via toutes mes expériences, à la fois aux étudiants, à la fois à des professionnels, pour leur dire, voilà, moi, aujourd'hui, ce que j'en perçois de la médiation, et qu'est-ce que j'en perçois concrètement, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a ce que je viens de citer, hein, le côté programme annuel où on va se faire plaisir. Là, il y a la semaine de la science la semaine prochaine. Il y a eu les journées du patrimoine il n'y a pas si longtemps.
Donc, on fait visiter des sites.
On les fait découvrir toutes les formes qui nous plaisent, en fait, hein, que ce soit de l'atelier de découverte, de la conférence, de la visite. Et puis, il y a cette partie vraiment création, quoi. Moi, pour moi, on est vraiment dans du créatif. Et là-dessus, franchement, je pense qu'il y a... Il y a vraiment à travailler là-dessus, de se dire, si je ne suis pas du tout dans la démarche créative... qu'est-ce que je viens faire pour devenir médiateur, quoi? Parce que c'est à nous d'être... On est à l'initiative, en fait, avec ces contacts, avec ces publics-là. On est à l'initiative aussi quand on est on travaille avec une collectivité, par exemple. C'est à nous de leur proposer des hypothèses, des potentiels de développement, une scénographie, un contenu. On ne va pas que faire la recherche sur un sujet. On va aussi proposer, oui...
mettre en scène, quoi.
Voilà,
en fait.
C'est ça, un visuel ou des mots, justement, pour évoquer les choses différemment. Donc, il y a cette partie-là de la médiation en archéo, moi, qui me plaît beaucoup.
Et alors, quels exemples, d'outils, d'objets, de réalisations concrètes?
Alors, justement,
dans le coin,
on en parlait tout à l'heure sur les jeux de société. On s'est fait un malin plaisir avec Paul Offelman de travailler sur la ville de Carré, bien évidemment, à la conception d'outils complémentaires sur ce qu'on avait à raconter quand on fait des interventions, par exemple, auprès des scolaires. On suit le programme, donc je ne sais pas si on intervient avec une classe de latinistes, on va les faire travailler sur la domus antique, comment elle se compose, et puis ils vont avoir des mots de vocabulaire à retrouver, etc. Et nous, en complément, ce n'était pas juste de leur dire, tiens, on vous met un plan sous le nez, c'est la domus de Carré, débrouillez-vous.
Apprenez ça par cœur.
Voilà. On a transformé ça avec des jeux de plateau, en fait. Alors, on en a un qui est autour de la ville, et où il faut repositionner justement les différents bâtiments qui composent la ville, avec un jeu... je ne sais pas si vous connaissez les colons de Catane un petit peu,
oui,
avec
un peu,
histoire de production.
C'est des jeux d'économie, en fait.
Voilà,
quoi.
C'est ouais. Ça, avec des matériaux, des choses comme ça. Et donc là, il va falloir construire son aqueduc, construire son forum, ses maisons, ses insoulés, ses domis. Et on en a un autre qui est plus sur les thermes, et où là, c'est comme comme un jeu de loi, quoi. On se balade dans les termes d'une pièce à l'autre et puis au fur et à mesure, on va gagner une serviette, on va gagner des petites pantoufles qui vont bien, on va gagner...
Strigil.
Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Et à la fin, on connaît à la fois le vocabulaire, on connaît les pièces et on le retient par le jeu, quoi. Donc on a fait ce pari-là. Ça fait partie des outils, en tout cas, qu'on apprécie. Et après, il y a tout ce qui est collection jeunesse, où là, on essaie de mettre en place des ouvrages, parce que, même chose, on s'est rendu compte aussi de la difficulté, c'est-à-dire que soit on a le manuel scolaire qui reprend le contenu du programme.
Et la chronologie et tout
voilà,
ça.
Ben c'est voilà, ça, donc il va être un bouquin un peu rébarbatif et... pas critiquer, il y en a des très, très sympas hein, que moi-même j'ai dans ma bibliothèque aussi hein, mais en tout cas qui sont pas forcément attractifs pour les enfants, souvent les parents qui l'achètent pour eux en disant tiens tu vas voir ça va être super. Et sinon on a le bouquin romancé qu'on retrouve souvent dans les boutiques sortir du château de Susigno, je ne sais où à La Roche-Jagu, avec la fée Mélusine du coin, l'ogre à qui il est arrivé des super histoires, et on va nous romancer ça. Alors c'est intéressant parce que parfois ça retrace la vie de cette personne au sein du château, puis on a les pièces du château etc, on découvre un peu le
ouais, c'est la fiction documentaire, on va dire. Enfin, si
c'est
on
un
veut,
peu
quoi.
Romancé, quoi. Mmh. C'est même beaucoup romancé. Et nous, l'idée, c'était de lier le côté manuel scolaire, où on retrouve justement le vocabulaire un peu complexe, parfois des plans aussi un peu techniques, et le côté romancé, qui permet quand même de se faire plaisir, parce qu'on voit bien que c'est par là que ça passe, quoi, des petits personnages. Et en marketing, d'ailleurs, on nous le dit souvent, le côté mascotte, le côté. Je vois à Corseul, ils ont fait le choix d'un petit gars, quoi, qui nous parle tout le long de l'expo.
Corseul, c'était l'équivalent de Carré dans les Côtes d'Armor.
Voilà,
dire.
C'est ça.
C'est la capitale.
Et à Coriosolis, donc dans leur centre d'interprétation, eh bien, il y a un personnage qui nous accueille et qui nous fait découvrir justement la ville et son histoire, quoi. Et ce personnage est décliné en documents pédagogiques, etc. Et c'est vrai que ça apporte un discours un peu différent. Alors, on aime, on n'aime pas. Nous, on s'est rendu compte que pour les plus jeunes, en tout cas, ça passait par ce type de démarche, quoi.
Donc, Archéolab fait aussi des bouquins jeunesse
voilà,
archéologiques.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Qui sont édités par qui?
Alors là, on est en pourparler de parce qu'en fait, on a déjà publié, quand j'étais au sein des Mémoires du Kreisbrief, on avait déjà commencé. Et donc là, j'ai commencé aussi à travailler aussi avec mes étudiants, enfin, qui ne sont toujours pas les miens, sur ce sujet-là, avec Locus Solus.
Donc, ah bah, en plus, bien. C'est vraiment à côté.
C'est ça, c'est
oui,
pas
on
loin.
Le connaît bien.
C'est ça, donc oui.
Ah, super. Et alors, un autre moyen pour faire de la médiation archéologique, c'est une émission de radio, comme Truelle et Sac à dos. Alors, pourquoi Truelle et Sac à dos? Un petit mot du nom.
Alors, parce que souvent, quand j'explique un peu mon parcours, c'est tout à fait ça, quoi. C'est que j'étais avec ma truelle et mon sac à dos. J'ai parcouru un petit peu le monde pour aller fouiller à gauche, à droite. Et puis, à un moment donné, j'ai posé la truelle. Je l'ai échangée contre des stylos, des marqueurs, de la peinture pour réaliser des outils. Et le sac à dos, je ne l'ai pas forcément posé parce que je garde toujours du stock dedans. Et d'ailleurs, on est en train d'en faire un avec le réseau des sites préhistoriques de Bretagne, justement, un sac à dos que les gens pourront embarquer avec eux pour aller découvrir les mégalithes
encore
sur toute la
outil.
Région. Voilà,
voilà
un ouais. autre outil. Mmh. Donc, ça venait de là, quoi. C'était aussi le jeu. Puis, bah, pour faire connaître, enfin, c'est vrai que la truelle, c'est quand même le symbole même de
l'archéologue.
Voilà, enfin, l'archéologue.
Parfois, il y a la brosse à dents, mais bon.
La brosse à dents, je la donne plus au paléontologue, du coup,
ouais,
souvent.
Ouais.
C'est plus souvent lui qui s'en sert. Moi, j'ai rarement eu à m'en servir, au final, je trouve.
Sinon, les archéologues, ils commencent souvent à la mini-pelle. Hein. Faut quand même, bon, là,
dans on un... est d'accord.
Ça serait un peu
décapé avant.
C'est
voilà.
ça.
C'est
et
vrai.
Donc, dans cette émission Truelle et sac à dos, il sera donc question de terrain. Alors, qu'est-ce qu'on ira voir, par exemple?
Alors, mon idée, c'était justement d'aller rencontrer ceux qui créent, ceux qui sont créateurs de cette fameuse médiation sur le territoire. Alors, forcément, il y a des structures, qu'elles soient associatives ou que ce soit des entreprises. Là, je pense au réseau des sites préhistoriques de Bretagne dont je parlais tout à l'heure, qui rassemble quand même maintenant quasiment une vingtaine d'entreprises à l'échelle, entreprises et assos à l'échelle régionale. Après, ça peut être aussi de parler d'outils, justement, qui ont été conçus spécialement pour mettre en avant un sujet ou un autre. Je parlais du sac à dos, du sac Néo. Voilà, ça peut être aussi de vous le détailler et de vous en parler plus en allant voir à l'intérieur ce qui s'y passe. Et puis, ça peut être aussi de rencontrer des personnes ou des personnages, des personnalités qui font aujourd'hui l'histoire de cette médiation sur le territoire, ou en tout cas qui ont permis de faire avancer les choses. Parce que, pareil, quoi, on a, bah, sans ces personnes-là, souvent, on se retrouverait un petit peu tout seul, quoi, parce que même s'il y a le service régional d'archéologie qui est à Rennes, qu'il y a les centres départementaux, que ce soit dans le Finistère ou dans le Morbihan, bah, il faut aussi des personnes sur le terrain qui soient là pour nous indiquer que tel ou tel site est en train d'être détruit, par exemple, ou que tel site, eh ben, ça serait bien d'y faire quelque chose. Je pense au musée de Pamart en ce moment qui pose question. Hein, c'est, mmh. Voilà, bon, bah, c'est des personnes au niveau local qui vont relayer, qui vont faire vivre ça pour essayer de bouger les choses. Et je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, s'il n'y a pas ces personnes-là au cœur du terrain, eh ben, on ne fait rien. Donc voilà, du coup, il y a les chemins de l'archéologie, par exemple, à Plussulien, et Danielle Le Gall, qui est la présidente depuis X années, qui a mené ça à bout de bras et qui chaque année rempile. Et là, elle est en coprésidence avec Vincent Aubin. Et ils essaient, tant bien que mal, de faire vivre ce site qui est voilà, un lieu d'interprétation à minima et qui essaie de faire connaître les choses dans une petite commune qui doit faire 500 habitants. Je ne vais pas dire de bêtises, quoi, mais voilà, on est sur un petit bout de terrain. Et pourtant, ça raconte une histoire avec des millions de haches qui ont été diffusées à travers toute l'Europe, quoi. Donc, on est sur de l'industrie du néolithique qui est inconnue au bataillon.
Donc, Truelle et sac à dos, ce sera l'émission de ceux qui transmettent l'archéologie, plus qu'une émission à proprement parler sur l'archéologie, même s'il en sera question. Bon, eh bien, on pourra l'écouter sur Radio Évasion le mercredi à 10h. Ça commencera le 11 octobre. Merci Céline Kergonan et à très bientôt.
Merci à vous.